chronique de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Bonjour à tous, bonjour Monsieur de la Rosière.
Bonjour.
Pour votre chronique finance, nous allons parler du triple A dont tous les Français ont entendu parler et que la plupart d'ailleurs ont découvert à dater du vendredi 13 janvier 2012, qualifié de vendredi noir, néfaste, qui a suscité d'innombrables commentaires. Alors avec un peu de recul, maintenant que nous sommes plutôt en février, nous aimerions, Jacques de la Rosière, entendre votre point de vue, recueillir votre analyse. On a dit beaucoup de choses, on a pris cette perte du triple A comme un coup dur pour la politique, une condamnation de la politique actuelle. On a aussi perçu cela comme une sanction et même presque une humiliation. Est-ce qu'il y a vraiment, selon vous, un lien entre cette notation triple A et la politique d'un gouvernement?
Il est normal qu'une agence de notation, lorsqu'elle analyse un État, ce qui était le cas, s'occupe de certains aspects de la politique du gouvernement. En effet, l'importance, par exemple, de la dette publique, sa soutenabilité, la politique économique sont des éléments essentiels de l'appréciation que les marchés portent sur l'économie d'un pays et donc sur sa santé financière.
Mais quelles pourraient être donc les conséquences de la perte de ce triple A, alors au niveau de l'Europe, des collectivités locales, du crédit aux entreprises ou même aux particuliers, et puis sur le coût de la dette de l'État?
Oui,
c'est alors beaucoup de questions en même temps.
Oui, mais c'est une très bonne question. Je vais peut-être, si vous le permettez, faire précéder la réponse à cette question par une considération sur les causes de cette dégradation de la note de la France le 13 janvier dernier. Je crois qu'il faut bien situer l'environnement. Les marchés avaient en fait devancé l'agence Standard & Poor's. En effet, les taux d'intérêt que le Trésor français devait payer pour ses emprunts étaient nettement supérieurs à ceux payés par l'Allemagne. Ainsi, pour un emprunt à 10 ans, la France payait, si nous prenons par exemple le 15 novembre dernier 2011, c'est-à-dire 2 mois avant la décision de l'agence de notation, la France payait 192 points de base, ce qui veut dire 1,9% de taux d'intérêt de plus que l'Allemagne, qui avait pourtant la même note triple A que la France. Cet écart, autrefois, avant la grande crise financière, n'était que de 10, 15, 20 points de base d'une manière générale. Si les marchés, qui ont été suivis avec retard du reste par l'agence de notation, si ces marchés ont décoté les emprunts français, c'est que ce qu'on appelle nos fondamentaux laisse à désirer. Notre déficit public en 2010 s'élevait à 7% de notre produit intérieur brut contre 3,3% en Allemagne, donc 2 fois plus. Le poids de nos dépenses publiques, qui est de l'ordre de 55% du PIB en France, fait de notre pays le champion des prélèvements obligatoires et de la lourdeur de l'administration. Notre déficit commercial est chronique et à terme insoutenable face, je le rappelle, à un excédent allemand. Et il dénote une baisse inquiétante de la compétitivité de notre pays. Donc, il ne faut pas trop s'étonner de cette dégradation. Et je crois que ce serait une grosse erreur que de croire qu'elle est motivée par un complot ou qu'elle est une sorte d'humiliation infligée aux Français et à son gouvernement. Non, il y a là des considérations.
Il y a une réalité que les marchés avaient dénoncée avant.
Il y a une réalité que les marchés avaient déjà décelée, ils l'avaient sanctionnée, et l'agence n'a fait en fait que avaliser avec retard ce point de vue. Alors, je réponds maintenant à votre question, qui est la question vraiment importante, et qui est celle des conséquences possibles de cette perte du triple A de notre pays. Alors, je vais prendre 3 catégories. D'abord, la capacité de la France et du Trésor français à emprunter. Deuxièmement, le plan européen. Est-ce que notre dégradation a joué un rôle sur les institutions européennes? Et enfin, sur les conditions de crédit au secteur privé en France. Alors, sur notre capacité à emprunter pour le Trésor, cette dégradation n'a eu en fait aucun effet. comme je l'avais déjà dit, les taux français avaient depuis un an subi la décote des marchés. Et en réalité, l'écart de nos taux par rapport à l'Allemagne s'est plutôt réduit depuis le 13 janvier, date de l'annonce de cette dégradation. Je vais prendre les chiffres parce qu'il faut être précis en ces domaines. Le 12 janvier 2012, c'est-à-dire la veille de l'annonce de la dégradation, la France payait ses taux à 10 ans 121 points de plus que l'Allemagne, c'est-à-dire 1,2% de plus que l'Allemagne. Et le 2 février, c'est-à-dire il y a quelques jours, cet écart n'était plus que de 106 points de base. Donc nous avons amélioré notre position d'une manière modérée, mais non négligeable. Vous savez que le Trésor a procédé à une très importante adjudication de bons du Trésor le 2 février 2012. Les taux sur ces bons à 10 ans ont été de 3,13%, c'est le prix qu'on a payé, alors qu'ils avaient été de 3,29% pour les émissions du 5 février, avant la décision de Standard & Poor's. Donc la situation s'est améliorée. Alors, ça peut, à première vue, paraître paradoxal. Mais je crois que plusieurs éléments ont joué. D'abord, Standard & Poor's avait déclaré le 5 décembre 2011, c'est-à-dire avant qu'elle ne dégrade sa note, qu'elle pourrait être conduite à baisser la note de la France jusqu'à 2 crans, avait-il dit. Et en définitive, la baisse d'un seul cran a plutôt rassuré. Et ensuite et surtout, il faut observer que la politique plus active de la Banque Centrale Européenne pour fournir de la liquidité à long terme au système bancaire a contribué à faciliter les émissions des États de la zone euro et à détendre les taux d'intérêt. Donc, la première réponse à votre question sur les emprunts par le Trésor public, cette première réponse est en réalité une réponse qui ne décèle pas d'influence négative de la décision de l'agence. Alors, deuxième point, ce sont les institutions financières européennes. Le Fonds européen de stabilité financière, vous savez, cet organisme qui a été créé il y a 2 ans pour aider, je dirais, au renflouement, à l'aide donnée à un certain nombre de pays qui ont des problèmes de difficultés, de liquidités. Ce Fonds européen de stabilité financière a été influencé par l'abaissement de la note de la France, ainsi que par l'abaissement de la note des autres pays européens. Et ils sont nombreux qui nous ont accompagnés le 13 janvier. Je veux parler de l'Autriche, de la Slovaquie, de la Slovénie, qui ont tous perdu un cran, comme nous, ainsi que de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal, qui, eux, ont perdu 2 crans. Alors, cette détérioration a mécaniquement abaissé la signature du fonds, puisque celle-ci est basée sur les notes pondérées de tous les États de la zone euro. Et donc, plus il y a des pays qui ont le triple A, mieux ça vaut pour le fonds, et moins il y en a, et les marchés le note et détériore la note. Et en fait, la note de ce Fonds européen de stabilité financière a été formellement abaissée par Standard & Poor's, venant de 3A à 2A, le 16 janvier dernier, c'est-à-dire quelques jours après notre propre abaissement. Et enfin, dernier aspect de votre question sur les conditions de crédit accordées aux emprunteurs privés, que ce soit des particuliers ou des entreprises, par les banques françaises, le déclassement n'a eu aucune influence sur les taux, puisque les taux d'intérêt du marché, comme je l'ai dit, n'ont pas bougé et se sont même quelque peu détendus.
Alors, vos confrères à l'Académie des sciences morales et politiques, et non des moindres, Jean-Claude Trichet, qui fut président donc, de la Banque centrale européenne jusqu'à l'automne 2011, et Jean-Claude Juncker, qui est membre associé étranger, qui est le chef de file des ministres des Finances de la zone euro, tous les deux sont favorables à créer une agence de notation européenne. Quel est votre point de vue sur ce point?
Pour répondre à cette question, si vous me permettez, je souhaiterais porter une appréciation sur les agences existantes. Parce que si vous me posez la question « faut-il créer une agence européenne ?», c'est que vous avez un peu en tête la notion que les agences existantes, il y en a 3 grandes, Standard & Poor's, Moody's et Fitch ne sont pas suffisants.
Ne satisfont pas tout à fait.
Et dans l'entretien que nous avions eu avant notre émission, vous aviez posé à juste titre le problème de l'indépendance des agences actuelles, de la qualité de leurs appréciations, peut-être le conflit d'intérêts.
Elles font des erreurs quelquefois et des conflits d'intérêts. Oui.
Alors, pour mieux répondre à la question de l'agence européenne, je crois qu'il faut un peu regarder pourquoi les agences actuelles ne nous satisfont pas entièrement. Alors, je vais reprendre votre question sous l'angle, d'une part, de l'indépendance de ces agences et, deuxièmement, sur le plan de la qualité et de l'efficacité de leur travail. Les grandes agences, les trois grandes agences, et surtout les deux grandes américaines, que sont Standard & Poor's et Moody's, sont détenues entièrement par des investisseurs privés. Si vous prenez les deux plus grandes, c'est-à-dire les deux américaines que j'ai mentionnées, leurs actionnaires sont essentiellement des fonds, de ce qu'on appelle des fonds de private equity, des fonds de capitaux. Et vous trouvez notamment un fonds comme Capital World Investment, vous trouvez le fonds Hathaway du célèbre Warren Buffett, vous trouvez des fonds comme Vanguard, BlackRock, qui sont très importants, ainsi d'ailleurs que des banques d'investissement comme Goldman Sachs et d'autres. Et tout cela confondu fait que les institutions financières, fonds ou banques d'investissement américaines des États-Unis représentent entre 80 et 86% selon les agences du total du capital de ces organisations. Donc ce sont vraiment, pour les deux plus grandes, des institutions essentiellement américaines et basées sur les fonds de capitaux privés. Alors, la présence de représentants de grands fonds de capital, de private equity, peut poser un problème de conflit d'intérêts. Car ces fonds sont, par nature, continuellement présents en bourse et prennent des positions à chaque instant.
Ils sont juges et parties à ce moment-là.
En tout cas, ils sont très actifs sur les marchés. Et de ce fait, leur stratégie d'investissement ou de désinvestissement peut être influencé par ou reflété dans les changements de notation par les agences qu'elles possèdent. Et donc, il y a la possibilité d'un risque de conflit d'intérêts. Plus grave peut-être encore que la propriété capitalistique des agences est le principe selon lequel ce sont les émetteurs de titres qui sont notés plus tard. Ce sont les émetteurs qui financent les agences de notation. Et on peut se poser la question, on se l'est d'ailleurs posé depuis longtemps, est-il bon que le professeur notateur, dirons-nous, soit rémunéré par les élèves notés ? Et peut-être encore plus sérieuse fut la situation des agences de notation à l'égard des banques d'investissement qui fabriquaient, avant la crise surtout, et mettaient sur le marché ce qu'on appelait des produits financiers complexes dans les années qui ont précédé la crise de 2007. Il faut bien comprendre de quoi il s'agissait. Non seulement les banques qui produisaient ces titres complexes demandaient aux agences de les noter contre rémunération, mais, et c'est ce qui était à mon avis critiquable, les banques demandaient aussi contre rémunération aux agences de les aider à fabriquer ces produits. L'agence était donc payée en quelque sorte deux fois par son client, une fois pour la notation et l'autre fois pour le conseil qui aboutissait, évidemment, c'était sa raison d'être, à classer en triple A les produits en question. Alors, le triple A qui a été donné à l'époque par les agences aux produits à base de subprime, vous savez, ces titres qui ramassaient des crédits hypothécaires à des emprunteurs très impécunieux aux États-Unis et qui, en fait, n'étaient pas capables de repayer leurs emprunts, ce triple A défrayé la chronique en 2007, lorsque ces titres se sont avérés désastreux au moment où le marché immobilier s'est renversé, malgré le triple A qui leur avait été très imprudemment assigné. Et, comme vous le savez, très vite, en quelques semaines, les notes ont plongé dans les profondeurs de l'abîme. En disant ça, j'aborde le deuxième point que vous aviez évoqué, qui était la qualité.
L'efficacité,
oui. Voire les erreurs des agences de notation. Alors je dirais que cette qualité est très variable. Je viens de donner un exemple avec les subprimes. Je dirais l'exemple peut-être le plus criant, allons, soyons sincères, de l'ineptie qui a été manifestée par les agences à l'occasion de cette notation des subprimes. Mais d'une manière plus générale, on peut dire que les agences ont tendance à réagir trop tard et à suivre les événements et les marchés au lieu de les précéder. Par exemple, la notation de l'Argentine dans les années 90, la notation d'une entreprise comme Enron montre, quand on étudie à fond ce qui s'est passé, une grande stabilité des notes données par les agences, suivie tard, après la révélation des problèmes ou des défauts, dans le cas de l'Argentine, par une chute précipitée des appréciations. Ce fut la même erreur qui caractérisa les notes des États européens dits périphériques, ceux du flanc sud de l'Europe, dans les premières années de l'euro. Que les notes grecques, portugaise, irlandaise, aient été presque égales à celles de l'Allemagne jusqu'en 2007-2008, a fortement compromis la crédibilité des agences. Cette tendance à manquer les vrais points de rupture a beaucoup fait pour euphoriser les marchés dans les années 2000 et donc à endormir d'un certain point de vue la vigilance des États et des régulateurs à l'égard des déficits budgétaires et des bulles de crédit qui se produisaient dans ces États. On peut dire que les agences de notation ont, de ce point de vue, failli à leur rôle. C'est bien avant qu'elles auraient dû tirer la sonnette d'alarme et montrer que la poursuite des évolutions allait vers des situations impossibles au niveau de la dette et au niveau des déficits. Ceci explique, et j'en viens maintenant petit à petit à la question européenne, ceci explique que les régulateurs, et en particulier ceux de l'Union européenne, cherchent désormais à réduire la dépendance de la supervision bancaire à l'égard des notations des agences. Autrefois, les notations des agences étaient un élément opérationnel du contrôle des banques. On disait, si le titre n'est pas AAA ou AA, à ce moment-là, vous devez faire davantage de provisions. Il y avait donc un élément, si vous voulez, de déclenchement qui était provoqué par les évolutions des notations des agences. Les régulateurs essayent maintenant de se distancer, vu toutes les erreurs commises et les défauts que nous avons indiqués il y a un instant, essayent de distancer, si vous voulez, le contrôle des banques de l'application automatique des notations.
Donc ce n'est pas seulement qu'ils veulent créer une nouvelle agence de notation plus européenne, ils veulent d'abord distancer cette dépendance.
Exactement. Et c'est vrai d'ailleurs en dehors de l'Europe aussi, les États-Unis, qui ont aussi souffert de la médiocrité des agences de notation, poursuivent le même objectif. Ceci explique donc que l'Europe recherche des solutions particulières à la surveillance des notateurs. Autrement dit, on commence à se poser la question de savoir qui notera les notateurs. C'est logiquement l'autorité européenne des marchés, qu'on appelle l'ESMA en anglais, qui est chargée d'assurer ce contrôle. C'est le contrôle a priori, avant autorisation et enregistrement, à fonctionner en Europe. Le contrôle des méthodes, la méthodologie utilisée, qui doit être maintenant détaillée. Le suivi de la qualité des notations, les retraits éventuels d'agréments, etc. Alors, j'en viens, excusez-moi d'avoir fait un peu un détour, mais je pense que ça éclaire mieux la question. J'en viens maintenant à une agence de notation européenne. Je pense que c'est une bonne idée, mais que pour être crédible, une telle initiative, c'est-à-dire la création d'une agence européenne de notation, devrait répondre à deux critères. Le premier, c'est l'indépendance de cette agence, si elle doit être créée, à l'égard des États européens. Il faut absolument éliminer le risque de politisation. Si on a le sentiment que ce sont les États qui créent une agence à leur service, alors on peut oublier.
Ça ne sert à rien.
Les marchés n'y prêteront aucune crédibilité. Donc il faut que ce soit indépendant des États. Et la deuxième condition, me semble-t-il, c'est qu'il faudrait faire en sorte que, contrairement à ce que j'ai expliqué pour les grandes agences qui ont le quasi-monopole de cette activité, il faudrait que l'agence à créer devienne aussi indépendante de l'influence des émetteurs et aussi, d'ailleurs, dans une certaine mesure, de ses actionnaires. D'où l'idée d'une fondation privée sans but lucratif qui créerait l'agence et d'une rémunération, parce qu'il faut bien vivre, par les acteurs, cette fois-ci, de marché et non pas les émetteurs eux-mêmes, c'est-à-dire les investisseurs, les fonds, les bourses, etc. Je pense que si on arrive, et on est en train d'y travailler maintenant, à une construction de ce type, où vous auriez une fondation, un peu comme les fondations qu'on fait pour la recherche scientifique, etc., avec un fort appareil universitaire, d'ailleurs, qui examinerait les méthodologies utilisées, et d'autre part, cette distanciation à l'égard de ces deux possibilités de conflits d'intérêts que sont d'une part les émetteurs qui payent et les actionnaires qui attendent le dividende, je pense qu'on aurait un système qui serait crédible et qui tiendrait
la route. C'est une idée à l'étude ?
C'est une idée qui est à l'étude, oui.
Depuis ce vendredi 13 ou depuis longtemps déjà ?
Non, bien avant, parce que le diagnostic de la faiblesse des agences de notation, que vous avez bien vu dans vos questions, il a été posé dès 2007 et même avant. Et dans le rapport que j'ai eu l'honneur de présider, d'animer sur
la surveillance
et la régulation financière en Europe, il y a des pages sans phare et assez rigoureuses, si vous voulez.
Une prise de position nette en faveur de cette solution.
Oui, enfin, nous avons montré quelles étaient les failles du système, les conflits d'intérêts et les insuffisances. Donc, non, c'est le diagnostic, il a été posé. On est en train de réfléchir maintenant à cette formule européenne qui, à mon avis, est assez intéressante.
Alors, nous suivrons les choses avec vous. Merci, Jacques Delarosière. Merci et à bientôt pour une autre chronique.
Merci beaucoup.